C'est une chambre très simple et sèchement meublée. Le lit nu, un fauteuil pour le visiteur, une commode, quelques étagères, une table devant la fenêtre. À l'aube, des oiseaux chantent dans la cour. Le soir, la chambre est brutalement éclairée par un lustre à trois ampoules nues. On entend parfois des pas, les conversations lointaines de pensionnaires qui se rendent à la salle à manger, la rumeur d'une maison. L'endroit porte un nom de purgatoire, Tiers-Temps, rue Rémy du Moncel, dans le 14e arrondissement de Paris. Là, Samuel Beckett finit silencieusement ses jours, tiers-lieu, lieu de renfermement, trou de l'attente. Il y a l'heure des soins, celle de la promenade, parfois une ou deux pages de lecture, parfois la force d'écrire. Il y a sans doute les longues heures assis à sa table, immobile, à regarder l'arbre dans la cour. Il y a l'heure du whisky lorsque les amis passent en fin d'après-midi prendre des nouvelles et bavarder un peu. Dans la solitude retrouvée, lorsque le jour tombe enfin, la voix de Yeats, ou peut-être celle tant aimée de Thomas More, murmure dans le soir, « Oft in the stilly night », alors dans la nuit calme, avant que le doux sommeil ne m'enchaîne, autour de moi la triste mémoire rassemble la lumière des jours d'antan. À moins que ce ne soit les dernières mesures d'un Lied de Schubert, « Reviens, nuit bénie, doux rêve, revenez aussi ». Sur la table, les restes d'un mince dispositif d'écriture, toujours le même, patiente, du papier, un stylo, nature morte sans apprêt, léger filigrane de l'idée. Samuel Beckett pose son visage dans sa main. Le noir alors se fait plus profond. Pour finir encore, crâne seul dans le noir, lieu clos, front posé sur une planche pour commencer. L'après-midi, il a encore lu Dante, une édition qui l'accompagne partout depuis le temps lointain de ses études à Dublin. Il a délaissé l'enfer, il a délaissé le paradis, il est revenu une fois de plus aux pages noircies et cornées du purgatoire, à ses lumières brisées, à l'énigme de ce lieu d'apparition et d'évanouissement, de corps en transit, de voix passante. Il a peut-être songé que le purgatoire se pouvait être ça, l'endroit où l'on est condamné à la nostalgie, condamné à trouver les mots pour purger les images qui s'obstinent dans la pénombre. Dans un effondrement obscur, les lueurs du souvenir apparaissent, les fantômes font un léger signe. Quelle vision dans le noir de lumière, quelle vision dans le noir sans ombre de lumière et d'ombre. Pour endurer la pitié du souvenir, pour souffrir la beauté de ces visages penchés, ombres lumineuses émergeant de l'obscurité, il faut le plan de la table tiré au cordeau. Il faut la ligne économe des objets. Il faut la frappe des mots avec leur bruit de cailloux. Tout ce qui fait l'écriture. Il refusait, dit-on, de s'interrompre pour contempler ce truc qu'on appelle ma vie. Pourtant, malgré les chemins détournés, plus on entre dans le texte et plus on le contemple, ce truc, cette chose désarmée, faite de trous, qui s'appelle une vie et s'offre comme un recueil de gestes à composer, une collection de pierres et de papiers à rassembler. Sur la table, dans la lumière froide, on découvre un corps pâle, quelques désirs accomplis ou empêchés, des rencontres et, en désordre, quelques manières de se taire ou d'exulter dans le plus grand calme. Comment dresser la scène provisoire de ces vies silencieuses qui s'organisent puis s'évanouissent sous le nom de Samuel Beckett? Comment agencer ces quelques restes, descendre ce petit tas qui subsiste et s'acharne à parler d'écriture? Pas seulement le texte, bien qu'il ait dit et répété que seuls ces textes signalaient son existence, mais le geste particulier d'écrire, la recherche, l'effort, l'incertitude de l'écriture et même sa joie. Sioran racontant sa rencontre avec Beckett rue Guynemer, Beckett lui parlant là, sur le trottoir, de sa joie d'écrire. Sioran se souvenant alors d'une rencontre à la closerie des Lilas, Beckett lui disant qu'il ne pouvait plus rien tirer des mots. jeunesse. Il faut imaginer d'incessantes allées et venues, l'impossibilité de se fixer, la souffrance physique, un cri muet, presque ininterrompu, sous le regard implacable d'une mère torturante, aimante et torturante. Un regard dont on sait qu'il était précisément pareil au sien, grandes mains, mêmes yeux, bleu, pâle, aigu, l'effet saisissant, ses yeux sévères le dévorent. Ces années-là, 1930-1937, brutalement, il quitte l'université quelques mois après y être entré, lâche son poste d'enseignant d'un mot d'excuse mal bafouillé sur un télégramme qui n'a pas été conservé, quelque chose qui aurait pu, qui devrait peut-être ressembler à « nul à ça, stop ». Ces années-là, il est en Allemagne, revient à Dublin, traîne sa fistule psychosomatique dans Londres, traverse l'Allemagne en souffrant du cœur et des pieds, revient à Dublin, s'éloigne, revient, se heurte à sa mère, à son acrimonie, à sa réprobation, repart mais revient. Il est ici ou là, malade, indécis, s'appliquant au malheur, endurant la mort d'un père, endurant la mort d'une jeune fille aimée. Il est emmuré dans le regard de sa mère. Il part, puis revient, etc. Il écrit « Maintenant, je me détériore avec la plus grande rapidité. Un insensible amas d'alcool, de nicotine et d'intoxication féminine. Un tas de tripes sans but. » Ces années-là, il faut l'imaginer comme Buster Keaton à l'ouverture de ce film que Beckett écrira des années plus tard, en 1964. Une silhouette en fuite, courant la tête basse, le regard furtif, s'échappant le long d'un mur immense qui semble, au-dessus de ce corps égaré, palpiter comme une peau. Sur les quelques images qu'on voit d'elle, posant dans le salon bien tenu de leur demeure bourgeoise aux abords de Dublin, ou dans le grand jardin aux pelouses et aux allées bordées de taillis soigneusement coupés, ou assise très droite, dans la petite charrette tirée par un ânon qu'elle tient aux rênes d'une main sûre, on la reconnaît aisément, longue et sèche, noire vêtue, la physionomie toujours sévère et d'une élégance raide qui la distingue. Le bibi vissé sur un œil bleu qui luit dans l'ombre, une cigarette à la main, le collier en sautoir, mais Beckett a toujours un chien dans les jambes et parfois un autre négligemment coincé sous un coude, de la gueule, du chic. On voit sur ces quelques photos tout ce qu'on a pu dire d'elle et que la légende rapporte. Qu'elle était pleine de colère rentrée et d'enjouement soudain. Qu'elle était généreuse par brusque éclat, accoutumée à l'ordre et attachée à ces riens qui vous posent, tandis que l'esprit fuit, allez savoir où. Le thé et le croquet dominical, les goûters près du court de tennis l'été ou l'hiver devant la haute cheminée, un service tenu d'une main de fer dans une volée de napperons blancs, d'argenterie et de réprimande. La maison est cossue, lourde tenture sombre, bois et cuivre, parquet ciré, trophée au mur, bow window en coin, dehors, mélèze sur gazon, mélèze ployant sous le vent, parterre de mimosa et de verveine, jardin potager, jardin à boutures. La maison est cossue, l'enfance heureuse de ses cris, de ses jeux, de tous ces rites parfaitement accomplis. Mais rien de ces riens n'empêchera jamais l'ombre de gagner, l'ombre qui transforme une mère en fantôme errant, errant la nuit dans les chambres, une ombre que personne ne peut nommer mais qui change un enfant, et même un jeune homme, et même un homme de presque 30 ans, en petit chiffon humide, le cœur glapissant de son désordre intérieur, allant se réfugier dans le lit de son frère aîné. Il aurait pu dire d'elle, comme Hölderlin disait de sa mère, qu'elle avait conclu un pacte avec la douleur, de ces pactes féroces qui se nouent dans les chambres ténébreuses des mères trop aimantes, des mères trop exigeantes. Plus tard, il pourra lui dire, à sa façon silencieuse, ce qu'Hölderlin avait écrit à sa mère. « Pardonnez-moi, très chère mère, s'il ne m'est pas donné de me faire entièrement comprendre de vous. » La maison a beau être grande, tout commence et s'achève dans la pénombre d'une chambre. Cette chambre où, plus tard, il commence à écrire l'histoire d'un fils qui écrit dans la chambre de sa mère. Chambre de l'obscurité et de la défaite, de l'ignorance enfin acceptée, chambre des mères mourantes entre les quatre murs nus de la langue. Qu'il soit en tenue de cricket, en pantalon de golf ou en costume d'écolier, il a toujours la tête penchée vers l'avant, incliné de quelques degrés de plus que les autres, le menton dans le cou, le regard rétif. Tous ses traits sont retenus et résistent à la photographie, mais en vain. La beauté implose, souveraine, impensable, un mystère, une question de millimètre, une particulière disposition au refus, à moins que ce ne soit un emprunt, l'autre nom du masque qui permet de déguerpir par la porte de derrière. À ses côtés, ses camarades en short et en veston s'offrent naïvement dans leur corps trop simple, leur visage d'aplomb. Sur les quelques images d'un film tourné à son insu, en 1987, par un indélicat qui se disait son ami, c'est la grâce parfaite de son expression qui surprend. Assis sur le canapé d'un hôtel new-yorkais, il parle face à une caméra dont il ignore la présence. On raconte qu'elle était dissimulée dans un pot de fleurs, admirable finesse de la trahison. L'extrait ne dure que quelques minutes, la parole est inaudible. Il est d'abord immobile, tête baissée, puis il se redresse. Et ce grand corps de pierre, ce champion du point fixe au regard d'aigle, s'anime brusquement avec une infinie délicatesse. L'axe de la tête se déplace sans cesse, la nuque s'incline, un tracé mélodieux organise tous les états de son visage. Plus tard, ailleurs, on le voit qui s'éloigne à contre-jour, long, presque dansant, les pieds très ouverts, les épaules mouvantes, la marche lente mais légère, dégagée. Ici encore, l'apprivoisement du vide intérieur, la récapitulation parfaite et suspendue. Certains, l'ayant croisé boulevard du Montparnasse, disent avoir entrevu cette qualité si particulière d'allant et de gravité, la grâce de ce corps-là finalement réuni en son âme. »